Belle journée sur France Culture. À 12h45, ce sera la grande table d'été et tout de suite, le journal.
Le journal présenté par Adrien Toffolet.
Bonjour à tous. Comme une évidence, une surprenante évidence, c'est sur les réseaux sociaux qu'on a appris hier soir la disparition de Bernard Stiegler. Le philosophe s'est éteint à l'âge de 68 ans. Penseur majeur du monde moderne, de la technique et des nouvelles technologies, grand critique des dérives libérales de nos sociétés. La productrice du journal de la philosophie sur France Culture, Géraldine Mosna-Savoie, lui rendra hommage au début de ce journal. 120 000 destructions d'emplois dans le privé au second trimestre en France, chiffre dévoilé par l'INSEE ce matin qui souligne une légère amélioration grâce à l'intérim, éclairage d'Anne-Laure Jumet. Quelles règles sanitaires pour la rentrée de septembre? Les protocoles pour les élèves et enseignants de la maternelle à l'université ont été dévoilés hier. Mot d'ordre, l'assouplissement, précision de Maxime Fayolle. L'Élysée paye les avocats de ses collaborateurs et ex-collaborateurs mis en cause par la justice. Étonnant, mais légal, nous expliquera Frédéric Saïs. Dans ce journal, nous reviendrons également sur la situation au Liban, les déclarations fortes d'Emmanuel Macron hier contre le système accusé de corruption par le peuple, analyse de Christian Chesneau. Et puis nous verrons aussi que la situation dans les hôpitaux, la gestion des malades et des victimes se gère au jour le jour, témoignage d'handicap international au Liban. Son œuvre était une invitation à voir le futur avec une certaine bienveillance, mais un féroce esprit critique. On a appris hier soir la disparition de Bernard Stiegler à l'âge de 68 ans, philosophe bien connu des auditeurs de France Culture, un homme engagé à gauche dès sa jeunesse, au parcours atypique, condamné à la prison pour un braquage de banque. Il s'est formé à la philosophie dans sa cellule à la fin des années 70, puis accompagné par Jacques Derrida, entre autres. Il avait axé son travail, sa réflexion sur la technique, l'impact de la révolution numérique et les mutations qu'elle implique sur la société, la politique, l'économie. C'est dire si la mort de Bernard Stiegler est une perte immense aujourd'hui. Écoutez la réaction de Géraldine Mosna-Savoie, productrice du journal de la philosophie sur France Culture.
La mort de Bernard Stiegler, c'est vraiment un événement, un drame pour la philosophie française. On perd un très grand philosophe. C'était un philosophe qui, dans mon souvenir, le peu de fois où je l'ai rencontré, où il est venu à France Culture dans l'émission Les chemins de la philosophie, était quelqu'un de très ouvert, qui avait une manière de faire de la philosophie. D'ailleurs, il a appris à faire de la philosophie en prison et ça témoigne de ce geste-là. La philosophie n'était pas réservée à une élite, à une aristocratie. C'était une manière au contraire très démocratique de penser et la philosophie, pour lui, j'avais l'impression, s'appliquait à des objets qui étaient à la portée de tous. On peut penser à son dernier livre sur Greta Thunberg, où il essayait de prendre au sérieux, de penser ce geste, cette manière de renvoyer à l'irresponsabilité écologique et d'interroger ce geste de cette jeune fille. Il la prenait très au sérieux, où évidemment, bien sûr, en fait, toute sa réflexion sur les nouvelles technologies, sur le numérique, la pensée de Bernard Stiegler, c'est de, au lieu de les observer de loin, au lieu de les condamner, au lieu d'avoir un jugement moral, nous aider à les penser en se les appropriant et en les critiquant de l'intérieur, en les éprouvant.
Géraldine Mosna-Savoie au téléphone de Pauline Joss. Sur le site de France Culture, vous trouverez un certain nombre d'émissions dans lesquelles est passé Bernard Stiegler, Les chemins de la philosophie d'Adèle Van Rett ou encore les 5 épisodes d'A Voix Nue qui lui sont consacrés. Il y évoque sa vie et son parcours philosophique au micro de Céline Louzen. Un nouvel indicateur de l'impact de la crise de la Covid-19, la destruction de 120 000 emplois dans le privé lors du deuxième trimestre de cette année, estimation de l'INSEE publiée ce matin. C'est légèrement mieux qu'en début d'année, près de 5 000 emplois avaient été détruits sous l'effet 500 000 du confinement. Et vous entendez donc Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Un chiffre qui attire particulièrement l'attention, c'est une note positive, disons, c'est l'amélioration qui est liée en grande partie à un rebond de l'intérim.
Oui, rebond au deuxième trimestre, un plus 23%, 108 500 créations de postes. C'est surtout au mois de juin qu'on a observé ce redressement, une tendance amorcée au mois de mai où le recours à l'intérim avait repris des couleurs dans l'industrie, la construction, les services, après s'être effondré mi-mars et au mois d'avril. L'intérim est en effet la première variable d'ajustement en cas de crise. Et alors que la demande repart dans certains secteurs, le travail temporaire est un outil prisé aux côtés des contrats à durée déterminée de très courte durée dans le BTP, le commerce commerce, les transports, on sollicite donc à nouveau des intérimaires. Cela dit, le secteur est loin d'avoir retrouvé ses niveaux d'il y a un an. En juin 2019, on dénombrait ainsi 214 800 emplois de plus qu'en juin 2020. C'est une reprise lente et progressive selon Prisma Emploi qui représente les entreprises de travail temporaire. L'hôtellerie-restauration, l'événementiel qui sont en temps normal de gros consommateurs d'intérimaires n'ont pas encore pleinement redémarré. Et puis, il y a, il faut le dire, un certain attentisme. Des entreprises disent aujourd'hui ne pas envisager de recourir à l'intérim jusqu'au mois de septembre, voire jusqu'à la fin de l'année, sur fond de fortes incertitudes sur l'avenir et de probabilités élevées d'une deuxième vague.
Anne-Laure Jumet, merci. Dans le même temps, et du fait de la crise de la Covid également, le déficit commercial de la France s'est fortement détérioré. Publication ce matin des dernières données des douanes. Il s'élève à 34 milliards d'euros sur le premier semestre, un trou creusé notamment par les exportations qui dégringolent de 28,9% au second trimestre. Rien de surprenant, commente ce matin le ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester, qui précise qu'un volet de soutien, d'ailleurs, soutien à l'export, fera partie du plan de relance présenté par le gouvernement le 25 août prochain. Ce fut une fin d'année scolaire particulière pour les élèves et étudiants de France, en plein déconfinement, et sans surprise, la rentrée de septembre le sera tout autant, puisque le coronavirus circule toujours. Les consignes sanitaires pour la rentrée des classes sont désormais connues. Une circulaire sur la rentrée universitaire a été publiée hier, ainsi que le protocole dans les écoles, collèges et lycées, publié sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Bonjour Maxime Fayol.
Bonjour.
Deux protocoles un petit peu différents d'ailleurs. L'un et l'autre ne se basent pas forcément sur les mêmes situations épidémiques dans le pays.
Et oui, et pourtant les deux protocoles à l'école et à l'université s'appuient sur le même avis, celui rendu par le Haut Conseil de la Santé publique le 7 juillet. Alors que nous dit cet avis ? Qu'il faut assouplir les consignes sanitaires. Et ça se comprend puisqu'il y a un mois, on comptait encore moins de 500 nouveaux cas de coronavirus par jour. Mais la donne a changé aujourd'hui et ce chiffre est désormais multiplié par 3. À l'école, la distanciation physique de 1 mètre n'est plus obligatoire vu qu'elle ne permet pas d'accueillir tous les élèves. Cette distanciation est en revanche recommandée à l'université. Sur le port du masque, les élèves de plus de 11 ans vont devoir le porter obligatoirement, mais pas les professeurs s'ils peuvent respecter cette distance de 1 mètre. À l'université, en revanche, ce sera masque pour tout le monde et tout le temps. Une autre différence sur le brassage des élèves, c'est-à-dire est-ce qu'on doit les faire se déplacer de salle en salle ? Il n'y a plus de limitation à l'école, alors que c'est fortement préconisé à l'université. Des consignes assez disparates, donc, et qui pourront changer si la situation sanitaire se détériore. Un entre-deux que dénoncent déjà les syndicats qui souhaitent des principes clairs et surtout une anticipation afin d'éviter des changements de consignes à quelques jours de la rentrée.
Maxime Fayol, il y aura un nouveau conseil de défense sur la Covid-19 la semaine prochaine. C'est Emmanuel Macron qui l'annonce en réaction à la situation de l'épidémie de coronavirus en France. L'état des lieux fait par Santé publique France hier qui montre une augmentation du nombre de personnes diagnostiquées positives, plus 30% en une semaine, soit plus rapidement que l'augmentation du nombre de dépistages réalisés dans le pays. On reste à l'Élysée avec une partie de son fonctionnement qui est mise en lumière ce matin. Bonjour Frédéric Saïs.
Bonjour Adrien.
Vous avez épluché le dernier rapport de la Cour des comptes qui a passé en revue le budget de l'Élysée et qui montre une forte augmentation sur le poste des frais de justice. Près de 160 000 euros ont servi l'an dernier à payer les avocats de collaborateurs ou d'ex-collaborateurs de l'Élysée mis en cause par la justice. Une disposition tout à fait légale, Frédéric, mais tout à fait surprenante également.
Oui, alors que le budget global de l'Élysée est mieux maîtrisé selon la Cour des comptes, voilà pourtant une enveloppe budgétaire qui s'envole. Les frais de justice payés par le palais présidentiel, ils ont représenté l'an dernier 160 000 euros contre seulement un peu moins de 2 500 euros l'année précédente. Ces frais de justice servent à payer les avocats des personnels de l'Élysée mis en cause par la justice dans l'exercice de leurs fonctions. Une disposition parfaitement légale qui s'applique d'ailleurs à tous les fonctionnaires pour des faits là encore commis dans l'exercice de leurs fonctions. Mais comment expliquer cette très forte augmentation d'une année sur l'autre dans le budget de l'Élysée ? Interrogée, la présidence de la République nous répond que cela s'explique par les hasards du rythme judiciaire, je cite, par des à-coups dans certaines procédures. Alors quand on parle de procédures concernant l'Élysée et en 2019, le regard se tourne aussi forcément vers l'affaire Benalla, mais contacté par nos soins, l'ancien chargé de mission à l'Élysée dément « je n'en ai pas bénéficié de ces frais de justice ». En réalité, Adrien, deux tiers de cette enveloppe de frais juridiques concernent des cas antérieurs au mandat actuel. Par exemple, l'affaire dite des sondages de l'Élysée, où plusieurs proches de Nicolas Nicolas Sarkozy sont mis en examen, dont Patrick Buisson, Emmanuel Mignon ou Claude Guéant, ex-ministre et ancien secrétaire général de l'Élysée. Contacté, ce dernier nous confirme qu'il bénéficie bien de cette protection juridique. C'est donc l'Élysée qui paie à 100% ses frais d'avocat dans le cadre de cette affaire qui remonte à il y a maintenant 10 ans. Emmanuel Mignon, ancienne directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, nous indique aussi bénéficier de ce dispositif. Patrick Buisson, lui, n'a pas répondu à nos sollicitations. Et cette ligne budgétaire des frais de justice à l'Élysée ne va pas se tarir de sitôt. Les avocats seront à nouveau sollicités pour le procès qui devrait s'ouvrir dans le courant de l'année prochaine.
Affaire à suivre. Merci Frédéric Saïs. Au Liban, les secours parcourent encore les décombres de Beyrouth. Ce matin, le bilan des victimes a été légèrement revu à la hausse, 149 morts et 5000 blessés. La journée d'hier a été marquée par la visite éclair d'Emmanuel Macron, lors de laquelle il a rencontré les dirigeants libanais, mais aussi une partie des Beyrouthins, et appelé face à eux à un profond changement dans la gouvernance du pays et des réformes de fond. Alors si l'on met de côté un instant les différentes critiques qui ont suivi en France, le président de la République accusé d'ingérence dans les affaires libanaises par une partie de l'opposition, revenons sur le fond de son discours, avec une triple attaque en règle contre le système, Christian Cheneau.
Après la compassion et la solidarité avec les Libanais dans les rues de Beyrouth, le président français est vite passé à un registre politique. Il n'a pas mâché ses mots devant les plus hautes autorités de l'État et les responsables des partis politiques. S'il n'y a pas de réforme structurelle de la gouvernance du pays, il n'y aura pas d'aide massive au-delà de l'assistance humanitaire, a dit en substance Emmanuel Macron. Échaudé par les engagements non tenus par le Liban, notamment ceux de la conférence Cèdre du printemps 2018, le président français a même mis en garde contre un éventuel détournement de l'aide logistique et financière. Par ailleurs, en demandant la transparence des opérations du système bancaire et de la Banque centrale, il a braqué les projecteurs sur la boîte noire du système libanais. La Banque centrale est en effet dirigée depuis près de 30 ans par le même gouverneur, Riyad Salameh, longtemps encensé à l'international mais aujourd'hui accusé d'être en partie responsable de la faillite du pays. Autre dossier qui fâche, Emmanuel Macron a réclamé une enquête internationale ouverte, transparente, pour éviter que des choses soient cachées et aussi que le doute ne s'installe, selon ses mots, et qui en dit long sur le niveau de confiance entre la France et l'administration libanaise. Le président français avait sans doute le souvenir de l'attentat contre Rafik Hariri en 2005 à Beyrouth et la scène de crime qui n'avait pas été protégée. Cette demande d'enquête internationale divise déjà la classe politique libanaise.
Christian Cheneau, depuis le drame, la colère de la population monte en flèche. Dans la soirée, des dizaines de manifestants contre la corruption des autorités ont été dispersés par les forces de l'ordre. Demain, une grande manifestation anti-gouvernementale sera organisée dans la capitale. En attendant l'aide internationale qui continue de s'organiser, le président du Conseil européen, Charles Michel, sera d'ailleurs demain à Beyrouth. Depuis la tragédie, les hôpitaux sont débordés, alors qu'ils souffraient déjà avant cette catastrophe d'un manque de personnel, de médicaments et de matériel. Pour faire baisser la tension, on fait sortir les patients les moins gravement blessés et on les aide à retrouver leur famille. Il faut aussi évacuer les corps des victimes. C'est la mission de l'ONG Handicap International sur place. Écoutez les explications de Caroline Duconseil, chef de mission Handicap International à Beyrouth.
C'est un peu la panique. Il y a 3 hôpitaux qui ont été complètement détruits. Donc oui, il faut libérer de l'espace pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins, en sachant qu'en plus, il y a aussi la crise du Covid-19. L'idée, c'est d'assurer que les gens soient pris correctement en charge aujourd'hui dans les hôpitaux et quand ils vont sortir, ils pourront continuer d'avoir une prise en charge, notamment pour tous les gens qui ont des blessures qui vont nécessiter des soins particuliers. Il y a énormément de fractures, il y a des gens qui vont avoir besoin de minerves, certains vont avoir besoin de cannes, il y en a qui ont besoin de chaises roulantes, besoin de corsets. On nous a demandé aussi des kits d'urgence de base pour les nettoyages, les compresses, etc. On nous a même demandé dans certains hôpitaux des sacs pour conserver les corps des personnes qui sont décédées. Il y a aussi pas mal de gens qui vont avoir besoin de kinésithérapie après leurs blessures. En tout cas, aujourd'hui, on a de quoi fournir. Après, sur le long terme, ce sera peut-être plus compliqué, sachant que le port est inutilisable dorénavant. Mais pour l'instant, il y a du stock.
Caroline Duconseil, jointe par Frédéric Mettezo. De nouveaux records pour la pandémie de coronavirus qui montre sa progression dans le monde entier. La barre du million de cas de Covid dépassée sur le continent africain, dont plus de la moitié en Afrique du Sud. 2 millions de cas en Inde désormais, ce qui fait plus de 19 millions de personnes contaminées au niveau mondial selon les chiffres dont on dispose. Les États-Unis encore comptent plus de 2000 morts ces dernières 24 heures. Ça n'était pas arrivé depuis 3 mois. Donald Trump a déclaré hier compter sur la production d'un vaccin peut-être avant la présidentielle du 3 novembre. La météo cet après-midi, caniculaire, 45 départements sur une large bande allant du sud-ouest au Hauts-de-France sont toujours en vigilance orange canicule. Grand soleil partout, léger voile nuageux sur la pointe bretonne et le long des côtes landaises et basques. Les températures évolueront entre 24 et 41 degrés, 24 à Brest et Cherbourg, 29 à Nice, 33 à Rouen, Metz et Gap, 35 à Paris, 37 à Nantes, Bordeaux et Toulouse. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia, merci à lui.